Farafina.
Farafina.
Terre de soleil.
Farafina.
Farafina.
Un magazine d'infos africaine.
Présentation Pamela Kumba.
Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Channel Africa pour ce rendez-vous avec Farafina, votre magazine des actualités en français. Nous émettons depuis nos studios de Johannesburg sous la direction technique de Tumelo Mukwena. Voici les titres. Au Burkina Faso, le décompte des voix se poursuit avec le président sortant Roch Marc Christian Kabore en tête de 50% des voix dépouillées. En Guinée, la marche de l'UFDG et ses alliés a été peu suivie à Conakry, la capitale. Et fin des consultations nationales en République démocratique du Congo, le porte-parole du prophète Mukungu Bila dénonce le non-respect de la parole du président Félix Tshisekedi. Et nous irons aussi au Niger parler de la mort de l'ex-président Mamadou Tandja. Voilà donc pour les titres que nous éplucherons avec d'autres sujets d'actualité après le bulletin des informations de Kofi Michel.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette édition d'information. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, qui brigue un second mandat, devançait ce mercredi ses adversaires selon les résultats partiels de la présidentielle du 22 novembre dernier, annoncés au compte-gouttes par la Commission électorale nationale indépendante. Selon les résultats provisoires égrenés par la CENI, l'actuel président a recueilli 58,14% des voix contre 14,25% pour le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, et 13,62% pour Eddy Kombo-Higo, le président de l'Est parti au pouvoir. L'opposition burkinabé a estimé que le double scrutin était émaillé de fraude et menacé de ne pas accepter des résultats entachés d'irrégularité. Elle avait déjà affirmé à la veille du scrutin qu'une fraude massive était en préparation. La CENI a une semaine pour proclamer les résultats. Restons toujours dans le cadre des élections, cette fois en Centrafrique. 14 partis d'opposition réunis sous la bannière de la coalition de l'opposition démocratique 2020 ont accusé mardi le président Faustin Akanji Touadéra, qui brigue un second mandat, de vouloir les écarter de la présidentielle avant même le scrutin fin décembre, notamment en faisant invalider leur candidature. Selon le porte-parole de la coalition et candidat déclaré Nicolas Tiangaï, l'opposition a demandé que les élections doivent être inclusives, ce que Touadéra ne veut pas. Il veut écarter les candidats de la COD 2020. 22 personnes ont déposé leur candidature pour la magistrature suprême, dont Touadéra élu en 2016 et l'ancien président François Bozizé renversé en 2013 par une coalition armée dominée par les musulmans, la SELECA. La Cour constitutionnelle doit encore valider leur candidature le 3 décembre prochain et nombre d'observateurs pressentent qu'elle pourrait exclure François Bozizé et d'autres candidats. Le premier tour des élections présidentielles prévues le 27 décembre prochain se déroulera en même temps que les législatives. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mardi sa première réunion consacrée à la guerre au Tigré en Éthiopie qui a fait fuir plus de 40 000 personnes vers le Soudan voisin sans produire de déclaration commune. L'Afrique du Sud a demandé du temps afin que les émissaires puissent mener leurs consultations et en référer à l'Union africaine. Selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, l'Union africaine était en première ligne dans les efforts internationaux et que le secrétaire général Antonio Guterres soutenait cette approche. Par ailleurs, Antonio Guterres a exhorté les dirigeants de l'Éthiopie à faire tout ce qui est possible pour protéger les civils, respecter les droits humains et assurer un accès humanitaire aux populations. L'organisation Human Rights Watch a appelé de son côté l'ONU à déclencher une enquête sur les violations des droits humains et la discrimination envers les groupes ethniques, incluant le rappel par l'Éthiopie du casque bleu originaire du Tigré de la mission de paix de l'ONU au Soudan du Sud. Et enfin, pour terminer, l'ancien président nigérien Mamadou Tanja est décédé mardi à l'âge de 82 ans. Chef de l'ancien parti unique, le Mouvement national pour une société du développement, Mamadou Tanja était devenu président de la République en 1999. Il avait occupé le fauteuil présidentiel jusqu'en 2010, date à laquelle il avait été renversé par un coup d'État mené par Salou Djibo après avoir tenté de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Incarcéré à la suite du coup d'État du 18 février 2010, il avait été libéré en mai 2011. Affaibli par la maladie, il se tenait éloigné de la scène politique depuis plusieurs années. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Je vous retrouve dans quelques instants pour la page sportive.
Bonjour à ceux qui prennent le train en marche. Commençons tout de suite la grande actualité par le Burkina Faso. Les résultats partiels mettent en tête le président Roch Kabore avec 58,14% des suffrages exprimés. Il est suivi de l'opposant Zéphirin Diabré, 14,57%, et en troisième position, Eddy Komobwago, 13,62%. Réaction de Juliette Kongo, qui est candidate à la députation.
Nous n'avons pas eu de problème d'attaque terroriste, nous n'avons pas eu de troubles en tant que tel par rapport au déroulement des élections. Donc vraiment, c'est une satisfaction pour moi.
Alors, nous sommes déjà dans une phase de comptage des suffrages exprimés par les populations. Est-ce que officiellement, il y a déjà les premières tendances qui se dégagent?
Oui. Il y a des tendances qui se dégagent parce qu'au niveau de la présidentielle, on est presque à 59% depuis hier soir. Et l'écart avec les autres est très considérable parce que celui qui vient juste après le président est à 16%. Et au niveau de la députation également, il y a beaucoup d'améliorations parce que moi-même, je suis candidate. Et au niveau de notre province, je viens en quatrième position et les quatre sont déjà rentrés et nous sommes en train de faire les décomptes toujours et on espère un autre député pour ajouter pour faire 5 pour la province du Kadiogo.
Vous avez dit que vous êtes candidate. Est-ce que ça veut dire que depuis quelques années, quand même, la femme burkinabé se positionne beaucoup plus dans cette sphère politique qui était auparavant très réservée aux hommes?
Bon, en réalité, les cinq dernières années, depuis l'insurrection là, il y a eu une régression nette de la participation des femmes parce qu'il y a eu trop de violence et ça fait que les femmes avaient peur. Même moi, pour déposer ma candidature, j'ai réfléchi par plusieurs fois avant de le faire. Pas parce qu'on n'est pas capable, pas parce qu'on ne veut pas, mais les femmes ont peur de la violence. Et c'est ça qui a fait que il y a eu une régression considérable du nombre de femmes, mais bon, on commence encore à reprendre le dessus. Et en ce qui concerne mon parti, en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui ont été positionnées. Et nous espérons que les résultats vont atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, qui est celui de plus de 30% pour les femmes cette année. Et je pense que ça sera le cas.
J'aimerais mentionner aussi une dernière chose. On a vu que l'opposition a retiré ses représentants des différentes commissions. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas affecté? Est-ce que ça ne va pas déteindre un peu sur la qualité des résultats qui vont être donnés?
Pas du tout. Parce que le travail qui se fait, le décomptage se fait d'abord au niveau des bureaux de vote. Et avec les CV et avec les CV qu'ils vont faire pour venir le remettre au niveau de la CENI, Le problème ne va pas se poser parce qu'il y a un plan B. Mais le plan B n'a pas fonctionné parce qu'ils ont compris que même sans eux, le décomptage va se faire et on va publier les résultats. Donc, parce que Et quand même, on est dans un pays de droit où les textes sont très clairs. Parce que s'il y a défection de commissaire, voilà ce qui doit se faire. Donc, ils ont juste appliqué et ils ont commencé le travail. Et depuis hier, les comptes se font au niveau, c'est fait même en direct à la télé. Et tout le monde suit, tout le monde note. Donc, il n'y a pas de tripatriage, il n'y a pas de fraude possible. Il n'y a pas de fraude possible. En tout cas, on attend qu'officiellement on déclare, sinon nous, on sait seulement que nous avons 4 députés au niveau du Kadjoro et je fais partie de ces 4. Et c'est vraiment un honneur pour les femmes parce que nous nous sommes battus pour que les résultats soient ce que nous souhaitons.
Rendons-nous maintenant en Guinée où la manifestation appelée par Seloud Alain Diallo et ses alliés sur toute l'étendue du territoire national a été peu suivie à Conakry, la capitale. Notre collaborateur, Mamadou Sadio Baldé, nous en parle depuis la capitale guinéenne.
Non, il n'y a pas eu manifestation parce que déjà le pouvoir en a interdit. Donc ce n'est que des perturbations, ce sont des activités qui vont être organisées en quelque sorte. Les perturbations ne sont pas aussi grandes que ça. Les gens vont à leurs occupations difficilement parce que c'est pas gagné d'avance quoi en fait. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur de sortir, il y a des gens qui peuvent ne pas avoir la route pour aller à leur boulot, il y a tout cela réuni quoi.
Est-ce qu'il y avait vraiment lieu d'avoir cette manifestation, connaissant que la Cour a déjà validé la réélection du président Alpha Condé?
En fait, la manifestation c'est beaucoup plus pour exiger la libération des leaders déjà. Vous savez qu'il y a beaucoup de leaders de l'UFDG et il y a beaucoup de cadres de l'UFDG qui sont libérés en ce moment, qui sont détenus en ce moment là, en prison. La manifestation d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus déviée pour leur libération.
Vous pensez que ça va aboutir? Le gouvernement va réagir positivement parce qu'effectivement, on a vu, le gouvernement s'est lancé à une chasse aux sorcières, à tous les opposants, que ce soit ouais. Ceux du FNDC ou même ceux de l'UFDG qui se sont opposés à cette élection.
Peut-être que ça pourrait porter, parce que même si le gouvernement fait semblant qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème proprement dit, mais les autres entités comme les religieux, comme le reste de la société civile qui n'est pas dans le FNDC, peuvent regarder les manifestations que l'UFDG est en train de demander, de réclamer à tour de bras, pour dire au gouvernement, attention, faites quelque chose, il faut tendre la main, il faut apaiser la situation. De toute façon, c'est vous qui avez le pouvoir, vous avez fait un forcing, vous avez obtenu le pouvoir, vous êtes là où vous êtes. Le mieux pour vous, c'est de rendre les choses plus faciles quoi, pour tout le peuple. Et là, ça ne peut s'obtenir que quand, par exemple, il y a l'UFDG qui demande à manifester là. Si ça sautait, personne ne réagit. Je sais que les entités dont je venais de citer là, elles peuvent rester inertes. Mais s'il y a des manifestations qui réclamaient, qu'elles réussissent ou pas, parce qu'on sait qu'au moins l'impact économique, ça c'est visible quand même.
Mais qu'en est-il d'une intervention de la communauté internationale? Est-ce qu'on pourrait arriver à une situation où on a enfin un dialogue entre Seloud Alain Diallo et le président Alpha Condé?
Communauté internationale, la CEDEAO, c'est pour répéter peut-être les propos de l'imam de Mali, la CEDEAO, c'est le syndicat de chef d'État. Bon, ça soit dit en passant. Si vous voyez aujourd'hui le Burkina, ils sont en élection, en pleine élection. Côte d'Ivoire, il y a une élection controversée. Mali, ils sont en pleine transition. Le Niger, il y aura une élection cette année. Donc pratiquement, la CEDEAO, c'est difficile qu'elle ait une influence aujourd'hui sur Alpha Condé. Ça, l'autre côté, l'Union européenne n'avait pas participé, c'est le premier partenaire de la Guinée en fait en termes de développement. Mais l'Union européenne n'avait pas envoyé des observateurs au niveau de l'élection qui vient de passer là. Donc aujourd'hui, la Guinée, pratiquement, elle se tourne vers la Turquie et la Russie. Et vous savez que les deux pays là, c'est leurs pays sont gérés par une main de fer. Donc c'est voilà. Donc je sais que si la situation peut-être que le pouvoir pourrait entendre raison si la communauté internationale se manifestait. Sinon, voilà, c'est compliqué quoi.
Vous écoutiez ce commentaire de notre collaborateur Mamadou Sadio Baldé depuis Conakry. Et contrairement à la capitale, où aucun manifestant n'était visible sur le terrain pour répondre à l'appel de l'UFDG et de l'ANAD, dans la commune urbaine de Labé, des citoyens ont pris d'assaut les rues. C'est ce qu'affirme le site d'information www.africaguinée.com. Des centaines de personnes étaient donc rassemblées peu avant 12 heures dans une ambiance bon enfant au rond-point de Ngo-Mburo où la marche devait débuter. Mais la tension est vite montée d'un cran lorsque les forces de l'ordre ont débarqué sur les lieux pour disperser les manifestants. Ils ont pourchassé les manifestants jusque dans leur quartier.
Maman, c'est Channel Africa.
On en parle dans Farafina à 16h temps universel sur www.channelafrica.co.za.
La perspective africaine.
En Côte d'Ivoire, l'actualité politique reste dominée par un nouveau mandat d'arrêt de la justice ivoirienne transmis aux autorités françaises et visant l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et trois de ses proches à Paris. Guillaume Soro est accusé de tentative de déstabilisation des institutions ivoiriennes. Il s'était réfugié en France depuis décembre 2020. Reportage de notre correspondant à Abidjan, c'est les Marius Kouassi.
Ce mandat d'arrêt international intervient à la suite de plusieurs appels de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, depuis le territoire français à une insurrection des forces armées ivoiriennes, estimant que la réélection d'Alassane Ouattara est anticonstitutionnelle. Le 21 novembre 2020, le ministre de la Justice ivoirienne, M. Sansan Kambilé, a adressé au ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire une demande de transmission aux autorités françaises des mandats d'arrêt émis contre Guillaume Soro, contre le député Issiaka Fofana et messieurs Moussa Touré et Abdoulaye Fofana, tous des proches du premier cité. Il faut observer qu'un précédent mandat d'arrêt international émis contre Guillaume Soro n'avait jamais été appliqué. Par ailleurs, l'un des membres du parquet ivoirien émetteur de ces mandats d'arrêt, à savoir le procureur de la République, M. Richard Adou, est actuellement visé par une instruction diligentée au sein du tribunal judiciaire à Paris à l'initiative des avocats de Guillaume Soro. Pour Maître Afoussi Bamba, Maître Robin Bensa et Maître Charles Consigny, les avocats de Guillaume Soro, les mandats d'arrêt émis contre leurs clients et ses proches collaborateurs sont tous illicites dans la mesure où, je cite, « ils ne reposent sur aucun fondement légal et où aucune extradition ne saurait valablement être accordée en application de ceci ». Fin de citation. Selon ses avocats, cette demande, largement relayée sur les réseaux sociaux, n'est rien d'autre qu'une opération de communication orchestrée par le pouvoir ivoirien dans le seul objectif de démoraliser les Ivoiriens, épris de justice et opposés au troisième mandat de Ouattara, qu'ils qualifient d'illégal et inconstitutionnel. Aussi soutiennent-ils que ces mandats d'arrêt reposent sur des procédures illicites qui ont été, selon eux, révélées par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans deux ordonnances émises le 22 avril et le 15 septembre dernier. Cinq proches de Guillaume Soro, arrêtés le 23 décembre 2019 après son retour manqué au pays, sont toujours en détention dans les prisons ivoiriennes en attente de jugement. Selon le procureur de la République, Richard Adou, il leur est reproché des faits de trouble à l'ordre public, diffusion et publication de nouvelles, jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral des populations. Le magistrat avait évoqué le flagrant délit pour justifier leur interpellation le 23 décembre 2019. Le 10 janvier 2020, l'ONG Amnesty International avait recommandé à propos aux autorités ivoiriennes de garantir un procès équitable à toutes les personnes arrêtées et veiller à ce que ces personnes puissent consulter leurs avocats et bénéficier de soins médicaux. Amnesty International avait estimé que le moment choisi pour lancer une opération judiciaire contre Guillaume Soro et les arrestations de ses sympathisants et proches était très suspect. Les poursuites engagées dans pareil contexte sont manifestement motivées par des considérations politiques, avait estimé la responsable sous-régionale d'Amnesty International en avril dernier. Mais plusieurs mois après, aucun procès n'a pu se tenir pour situer la responsabilité de ces mises en cause dans les faits qui leur sont reprochés. Entre-temps, fin septembre, soit après 9 mois de détention sans jugement, une dizaine de proches de Guillaume Soro détenus ont pu bénéficier de remises en liberté provisoire tout en restant inculpés. La majorité des personnes libérées s'est aussitôt engagée à soutenir la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, renforçant ainsi auprès de ces mêmes populations l'idée selon laquelle leur libération avait fait l'objet d'un deal avec le régime de Ouattara. Dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique et publiée vendredi dernier, le président français Emmanuel Macron a assuré que Guillaume Soro n'est plus en France. Il avait par ailleurs affirmé, je cite, « sa présence n'est pas souhaitée sur le territoire français » où il a appelé l'armée ivoirienne à renverser le chef de l'État Alassane Ouattara. Fin de citation. Guillaume Soro est poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État ivoirien et a été condamné par contumace le 22 avril à 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende, 5 ans de privation de ses droits civiques pour détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Depuis Abidjan, c'est les Marus Kouassi pour Canal Afrique.
Allons maintenant au Sénégal pour parler des questions des migrations irrégulières qui ont été largement évoquées lors de la conférence de presse du gouvernement mardi dernier à Dakar. Les différents ministres présents ont défendu la politique du gouvernement d'appui à la jeunesse et à la formation professionnelle pour lutter contre ce phénomène. Écoutons ce qu'en pense Bokarli, secrétaire général du Front pour la défense des valeurs de la République. Il est au micro de Joël Moutéba.
Où ils ont eu des problèmes, de grands problèmes pour expliquer aux Sénégalais la réalité des choses. En les entendant, en les écoutant, vous savez parfaitement qu'ils sont passés à côté de la réalité, de la vérité. Qu'est-ce qui existe? Et c'est ce qu'ils ont fait hier. L'immigration clandestine, c'est le manque d'emploi. Rien d'autre. L'immigration normale, régularisée, ça passe par les aéroports. Donc on comprend bien que c'est une classe qui est destinée à l'immigration régulière. Aujourd'hui, on sait très bien que les jeunes sont en train de prendre les pirogues tout simplement parce qu'ils sont désespérés. Ils n'ont aucun retour par rapport à ce qui est attendu ou bien le minimum d'offres par rapport aux emplois au Sénégal.
Le ministre Diop, pourtant, confirme que la baisse des revenus liés à la crise de coronavirus, l'Eldorado européen vendu à la jeunesse, la rumeur de régularisation des papiers et surtout la pression des parents et des familles contribuent aussi à l'émigration irrégulière.
Vous pensez que dans un état normal, un gouvernement normal, tel ministre devrait prendre ces genres de propos au lieu de soulager, au lieu d'encadrer en tout cas ce qui est en train de se faire. Ce que nous appelons ici à RDR, la fuite de responsabilité depuis Macky Sall en passant par ses ministres. Un ministre ne devrait pas prendre ces propos-là. Parce que tout simplement, la réalité, elle est catastrophiquement en dévoyage de ce qu'il dit. Mais nous comprenons tout. Nous comprenons parce qu'ils sont dans des sphères où ils ne sentent pas la difficulté au quotidien, ils ne sentent pas le besoin au quotidien où les Sénégalais n'ont pas de quoi manger le matin. Une mèche de pain qui coûte 150 francs, vous allez voir des familles, de nombreuses familles sénégalaises qui ne parviennent pas à l'en avoir. Alors qu'eux, ils sont en train, de l'autre côté, à voyager, à avoir des privilèges.
Mais que dites-vous de la sensibilisation qui a été faite auprès des jeunes? Vous croyez qu'elle a porté fruit? Vous croyez que les jeunes comprennent qu'il est possible de rester dans ce pays et de vivre de son métier?
Les jeunes ne comprendront pas dans la majorité cette sensibilisation. Mais s'ils n'ont pas cet accompagnement, en tout cas du ministère pour leur montrer comment on peut réussir à faire... réussir à faire élaborer un projet et finaliser et finalement le mettre en réalité.
Mais le gouvernement affirme pourtant que des financements ont été octroyés aux jeunes. Des financements directs au nombre de 95 000 jeunes et des financements indirects avec 105 000 jeunes touchés.
Moi, je les ai défiés sur des plateaux de télévision comme la TFM et comme le FADI. Je les ai défiés et je les ai dit. Vous ne pouvez pas montrer des chiffres que vous avancez. C'est facile de rester à la télévision et de dire qu'on a financé 95 000 jeunes ou bien moins que ça. Je ne refuse pas qu'ils ont financé. Ils ont financé certainement. Ils financent qui? Les gens qui les intéressent. Un électorat. Donc c'est pour les maintenir. On comprend ça.
Quelle est la solution que vous suggérez concrètement à ce problème?
Concrètement, pour maintenir les jeunes ici, c'est déjà d'ouvrir, en tout cas, de permettre à ces jeunes là, qui sont cette année, cette fois, cette saison-là, qui sont la majorité des immigrés, qui sont des candidats à l'immigration, qui sont des pêcheurs, et de permettre à ces pêcheurs-là de rester et de vivre de leur pêche. C'est-à-dire ne pas leur mettre des limites, c'est mauvais. C'est de leur permettre, à même titre que ces grands bateaux-là, de pouvoir pêcher, de pouvoir revaloriser en tout cas leur profession. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est pour nous, c'est de créer des centres, comme j'ai dit tantôt, des grands centres agricoles où on peut absorber, incuber en tout cas la majorité de ces jeunes candidats à l'immigration et mettre les moyens qu'il faut, construire ces centres-là, y mettre les bâtiments qu'il faut pour qu'ils puissent rester et vivre là-bas comme s'ils étaient chez eux et le matin aller cultiver.
Chers auditeurs, je l'annonçais en titre de ce magazine des actualités en français, le Niger est en deuil avec le décès de l'ancien président Mamadou Tandja. Il avait pris les rênes du pays de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch. Il s'est éteint donc mardi à Niamey, la capitale nigérienne, des suites d'une maladie à l'âge de 82 ans. Nouh Arzika, président du mouvement de la citoyenneté responsable, a réagi à ce décès.
Les circonstances de l'information qui m'est parvenue quand on l'a précipitamment évacué de chez lui à l'hôpital, évidemment, ça m'a époustouflé. Et on a annoncé qu'il est venu à mourir. Donc, alors, c'était. Vous imaginez bien l'émotion et la situation, parce qu'en fait, vous le savez, le président Tandja, c'est un homme qui a fini par marquer notre vie en tant que Nigérien. Il a fini par marquer notre pays et de tous les hommes politiques que nous avons connus, qui ont eu la chance d'être à la position institutionnelle qu'il a eu, celle d'être le président de la République, le chef de l'État. Et Tandja a été l'un de ceux qui ont marqué notre pays. Et c'est pour cela que aujourd'hui c'est un véritable deuil national, parce que beaucoup de Nigériens sont affligés par cette information, par cette disparition du président Tandja. Tandja, effectivement, ça fait longtemps qu'il lutte contre la maladie qu'il a éteint il y a quelques années, notamment 4-5 ans comme ça. Mais j'avoue que c'est dur. C'est dur de vivre la situation. Mais comme nous sommes des humains et sachant que tout le monde est dans une situation où un jour ou l'autre ça va arriver. Donc dans notre tête, quelque part, il y avait l'idée qu'un jour ou l'autre on doit pouvoir s'attendre à ce genre d'informations, ce qui fait que en bon humain, en ce qui nous concerne, nous considérons que on doit pouvoir prendre la situation telle qu'elle et puis regarder l'avenir avec beaucoup de perspectives, en souhaitant vivement que notre peuple et que beaucoup d'Africains puissent s'inspirer de l'exemple de Tandja, de la capacité qu'il a prouvée en tant qu'homme d'État et en devoir et dans l'exercice de ses fonctions et ce qu'il a été en mesure de faire et de démontrer. Et Tandja a montré qu'il était un grand homme d'État qui avait uniquement le pays à cœur et le peuple. Il n'avait pas de vie pour lui-même, il vivait pour le peuple et son pays. Et ça, c'est une preuve évidente que nous avons appris à découvrir de l'homme vers pratiquement, je vais dire, durant les années de sa gouvernance. Nous avons été de ceux qui ont suivi avec beaucoup de rigueur et de vigueur son régime. Par moment, nous avons au début eu des difficultés, des chocs. On a eu à lutter contre son régime sur certaines pratiques, mais on a fini par se comprendre et on a fini par découvrir, lui aussi a fini par découvrir en nous des citoyens qui voulaient que du bien pour le pays et voulaient en fait aider l'État à jouer et à assumer pleinement son rôle. Ce qui a fait que finalement, comme on dit, tous ceux qui montent convergent, on a fini par nous découvrir l'un l'autre. Et j'avoue que c'est avec beaucoup de peine que je vis l'événement.
Alors, vous avez parlé d'un combat contre la maladie. Alors, il souffrait de quoi?
Bon, écoutez, en fait, vous le savez, c'est une personne qui est vieille aujourd'hui, il est dans sa 83e année. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de c'est un complexe de situations liées à l'âge, tout ça. Donc, je pense que je ne peux pas me mettre à dire ce qui se passe parce que je ne suis pas un médecin. Et toujours est-il dit que je sais qu'il était malade et finalement la maladie a fini par l'emporter. Et je pense que il n'y a aucun détail qui ne soit pas qui soit nécessaire. La seule chose que je sais, Tandja est mort parce qu'il avait un goût d'inachevé. Il avait un goût d'inachevé et il était quelqu'un qui avait beaucoup de rêves pour le Niger.
Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa.
Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za.
Passons maintenant l'antenne à Joël Mouteba qui nous présente le bulletin économique du jour.
Bonjour à tous les auditeurs. L'or est en bonne santé. Voilà qui explique les nouvelles pressions exercées dans l'industrie aurifère sur les géants miniers actifs dans l'exploitation du métal jaune. Les compagnies aurifères sont appelées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre s'ils veulent continuer à bénéficier du soutien des investisseurs. En effet, l'or réalise cette année des performances historiques et se négocie actuellement à plus de 1 800 $ l'once sur les marchés mondiaux. Cette hausse bénéfique dans les caisses de ces compagnies pousse les investisseurs à demander non seulement une feuille de route claire sur les mesures prises pour réduire l'empreinte carbone, mais également des rapports pour en rendre compte. Notons que plusieurs compagnies travaillent déjà à réduire leur dépendance vis-à-vis des énergies jugées trop polluantes, comme le diesel. L'Afrique du Sud a par ailleurs assoupli en début d'année sa législation énergétique afin de permettre aux compagnies de produire elles-mêmes leur énergie. En début de semaine, la multinationale singapourienne Olam Palm a présenté le site devant abriter sa future usine de production de biocarburant à partir de l'huile de palme. Le site est situé dans la partie sud de Libreville et s'étend sur 5 hectares. Il offre un accès facile pour l'importation des équipements et l'exportation des produits dérivés issus de la transformation de l'huile de palme. Pour le gouvernement, la production de biocarburants, moins polluants, viendra ainsi renforcer la compétitivité de la filière huile de palme et concrétiser l'orientation du pays en faveur de la préservation de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. La construction et la mise en service de cette usine de biodiesel devraient être pourvoyeuses de centaines d'emplois directs et indirects. Ce projet, lourd en investissement, devra faire entrer le Gabon dans une nouvelle ère. Depuis l'an 2000, la Chine a réalisé en Afrique plus de 6000 km de voies ferrées, un kilométrage similaire de routes, la création de près de 20 ports, ainsi que plus de 80 centrales électriques à grande échelle. Ce pays asiatique, dont le stock d'investissement direct s'élevait à plus de 49 milliards en 2019, est le premier partenaire commercial du continent africain. Monsieur Zhao Yang, chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Nigeria, assure que tous ces projets clés dans le secteur des transports, à l'instar du chemin de fer de Mombasa-Nairobi au Kenya et du pont suspendu Maputo-Katembe au Mozambique, ont apporté des changements significatifs au développement économique et social de l'Afrique. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique pendant 11 années consécutives. Et le Nigeria reste le plus grand marché de contrats de projet de la Chine, le plus grand marché d'exportation, le deuxième partenaire commercial et la principale destination des investissements en Afrique. Au Kenya, Elizabeth Gikebe a fondé Mogo Foods, qui est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la transformation du manioc en produits industriels. Cette entreprise, située à Nairobi, produit de la farine, des chips et du tapioca, qu'elle commercialise ensuite dans des emballages modernes, dans des points de vente en détail et des grandes surfaces. Non seulement elle apporte une valeur ajoutée à la filière locale du manioc, l'entreprise forme également les petits exploitants aux meilleures pratiques agricoles pour booster leur productivité. Elle a non seulement soutenu 8000 agriculteurs au Kenya, mais aussi fourni aux agriculteurs un modèle commercial fiable, contribuant ainsi à la réalisation de l'un des objectifs de développement durable, à savoir éliminer la pauvreté. Parlons vaccins pour finir. Le Tony Blair Institute et la société américaine Oracle ont annoncé le lancement sur le continent d'un système de gestion des vaccins basé sur le cloud. Il s'agit d'un système permettant de numériser et d'unifier les données sanitaires nationales. Il permet donc de créer un dossier médical électronique dans une base de données pour chaque personne. Lorsque les pays commenceront à vacciner les gens contre la COVID-19, ce système sera utilisé pour créer automatiquement un dossier médical électronique pour chaque personne vaccinée. Il assurera le suivi des vaccinations et fournira aux bénéficiaires un code numérique. Ce code aidera l'Afrique à rouvrir ses frontières et ses économies en fournissant aux citoyens la preuve de l'immunisation nécessaire pour circuler librement. Selon ses concepteurs, un accord a déjà été trouvé avec le Ghana, le Rwanda et la Sierra Leone afin de créer des dossiers médicaux électroniques pour leur programme de vaccination contre de nombreuses pathologies. Des pourparlers sont également en cours avec d'autres pays d'Afrique qui évaluent la possibilité d'utiliser le même système. Merci d'avoir été fidèle à ce bulletin économique. Je vous retrouve demain.
Le rideau est récemment tombé sur les consultations nationales en République démocratique du Congo et l'équipe de communication du prophète Joseph Mukungubila se dit déçue. Et pour cause, le prophète, qui est en exil en Afrique du Sud, s'était prononcé en faveur de ces consultations, mais il n'a pas pu y participer suite à un non-respect de la parole du président Félix Tshisekedi. Charlie Mingedi, porte-parole du prophète Mukungubila, en parle.
Merci d'abord de nous avoir donné cette opportunité, que nous puissions essayer d'expliquer un peu à l'opinion tant nationale qu'internationale par rapport à ce qui vient de se passer. Donc, quand le président de la République a lancé l'appel pour les consultations, le prophète a compris qu'il y avait un problème. Et c'est un problème que nous sommes en train de vivre au quotidien. Il y a une crise au niveau de notre pays et une situation chaotique. Le prophète a dit qu'il était prêt à participer à ces consultations et pour amener aussi sa pierre des contributions afin que le pays puisse aller de l'avant pour trouver des solutions. Malheureusement, nous avons été surpris d'entendre que les consultations avaient pris fin et pourtant la présidence était en pourparlers avec le bureau du prophète et promettant au prophète comme quoi il allait participer et que l'invitation était là, il nous faisait entendre et qu'on allait avoir l'invitation jusqu'à la fin. On attend que, voilà, les consultations ont pris fin. Et on se pose la question, pourquoi avoir donné les promesses au prophète? Parce qu'il y avait un dossier au niveau du CENSA, le général Mounene et le prophète. On était en train de traiter leur dossier par rapport à la décrispation. Ils devaient rentrer au pays. Le général Mounene est rentré, il y a de cela une semaine. Et on se disait, peut-être comme le général est rentré, le prophète aussi aura son invitation et il rentrera. Rien du tout, donc jusqu'aujourd'hui. Voilà ce qui pousse aujourd'hui le bureau du prophète à réagir, parce que le prophète lui-même a réagi par les tweets.
Alors, mais maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire?
Nous venons de prendre acte de la façon dont on ne respecte pas les paroles données. Parce que quand on dirige quand même une grande institution comme la présidence, et qu'on a donné sa parole, on ne peut pas aller outre cette promesse, cette parole qui est sortie. Parce que le prophète, il est ici en Afrique du Sud, normalement il devait déjà se retrouver au Congo, parce qu'il y avait un nouveau régime, le régime qui avait condamné les prophètes et tout ça là. Après ce qui s'est passé avec le rassemblement, avec tout ce qu'il y a eu, avec la SEMCO, on a pu avoir un terrain d'entente et on a sorti ce qu'on appelle ici la décrispation. Tous les exilés politiques et des prisonniers politiques devaient sortir. Tous sont sortis, sauf les disciples de Mukungubila et les prophètes lui-même. Donc maintenant, là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Le prophète ne doit que continuer. Il veut rentrer dans son pays, il veut participer au développement, au changement de son pays. Donc cette façon de le mettre à l'écart, de le laisser être pris en otage par un pays quelconque, le prophète ne veut plus entendre parler de ça. Pour lui, il est temps qu'il puisse rentrer, invitation ou pas, il rentrera dans son pays pour trouver des solutions afin de sortir le pays dans le gouffre où il se trouve aujourd'hui.
Le conflit entre l'Éthiopie et le Tigré prend de l'ampleur. La Commission éthiopienne des droits de l'homme a estimé à 600 le nombre de personnes massacrées dans la ville de Maïkadra, dans l'ouest de la région. Ces crimes auraient été commis par une milice tigréenne. Écoutons le compte-rendu de Joël Mouteba.
Le récit des événements est sans équivoque. Les habitants de la ville n'auraient eu aucune chance d'échapper à leur bourreau. Le massacre a eu lieu sur les terres de l'ouest de la province, théâtre de revendications territoriales entre Amaras et Tigréens depuis des décennies. Des crimes planifiés, puis commis de sang-froid par les Samri, une brigade de jeunes miliciens tigréens. L'EHRC a déclaré avoir été en mesure de confirmer que le massacre avait eu lieu après qu'elle ait eu déployé une équipe d'experts en droits de l'homme à Maïkadra, dans la zone occidentale de la région du Tigré. Elle affirme que l'ethnie tigréenne appelée Samri a été aidée et encouragée par les forces de sécurité locales. La commission a précisé que les forces locales au Tigré ont appuyé le groupe, qui a conduit des raids de maison en maison et a ciblé les civils non tigréens après avoir vérifié leur identité. Les membres de Samri ont pris le contrôle de toutes les issues de la localité de Maïkadra et ont permis aux Tigréens de s'échapper alors qu'ils ont assassiné les non-Tigréens qui appartenaient au groupe ethnique. Tout au long de la nuit, les auteurs ont tué à coups de bâton, couteau, machette ou hachette, ou en étranglant avec des cordes, se livrant au pillage et à la destruction. L'EHRC estime que ces faits sont susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Selon la dernière enquête de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, au moins 600 individus, Amaras, auraient été massacrés à Maïkadra. Cependant, des témoignages contradictoires affluent du Soudan voisin, où plus de 40 000 Éthiopiens se sont réfugiés. Il est encore aujourd'hui impossible de faire complètement la lumière sur ces crimes. Et ces points d'interrogation demeureront tant que le Tigré restera dans le noir, coupé de tout contact avec l'extérieur, comme depuis 22 jours. La vérification sur le terrain des affirmations de l'un et l'autre camp est très difficile. Le conflit a déjà poussé quelques 40 000 habitants du Tigré à se réfugier au Soudan et provoqué d'importants déplacements internes à la région sans qu'on en connaisse l'ampleur exacte. Rappelons que depuis le 4 novembre, le gouvernement éthiopien a entrepris des opérations militaires contre le TPLF, le parti au pouvoir dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. Et maintenant, une guerre officielle contre le gouvernement fédéral a suivi l'attaque du TPLF contre le commandement nord des forces de défense nationale éthiopienne, une division qui est stationnée dans la région depuis plus de deux décennies. L'ONU appelle à protéger de toute urgence les civils dans la région éthiopienne du Tigré. Joël Mouteba pour Channel Africa.
Lancement ce mercredi de la Journée internationale des violences faites aux femmes et à la fille. Nous sommes en République démocratique du Congo et les chiffres sont alarmants sur les violences basées sur le genre à l'est du pays. Plus de 47 000 cas enregistrés dans cette région alors que cette journée coïncide aussi avec le lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme. Reportage de notre correspondante Gisèle Kaimbani.
Le thème au Nord Kivu pour célébrer cette campagne est interpellateur, tolérance zéro contre les abus et exploitation sexuelle au Nord Kivu. Mais les chiffres sont accablants. D'abord, la province du Bazouélé présente des chiffres qui montrent la pertinence même de combattre les violences basées sur les genres, VBG.
Bazouélé, au final, nous avons pu constater que dans la période entre les trois trimestres, Bazouélé nous affiche un taux très catastrophique d'augmentation de cas de VBG. De janvier jusqu'à septembre 2020, mais c'est en comparaison à la période de janvier et septembre 2019. Donc, pour la province du Bas-Ouélé, a connu une hausse significative des cas de VBG de plus de 212%, de janvier à septembre 2020, comparé à la même période de l'année dernière. Cette augmentation est la conséquence de l'activisme des groupes armés LRA, dans la zone du Bas-Ouélé et du Séléka, qui viennent aussi, qui fait la zone du Bas-Ouélé, je crois, fait frontière également avec la RDC et la République centrafricaine.
Cette activiste de droits de la femme en RDC n'épargne pas la province du Nord Kivu, où plus de 18 000 cas de violences basées sur les genres sont signalés. Une situation très alarmante et plus de 47 000 cas pour les quelques provinces de l'Est de la République démocratique du Congo.
En fin 2020, nous enregistrons pratiquement 45 003 cas de VBG qui ont été déclarés et pris en charge. Avec 5%, ça représente 2367 personnes qui présentent un handicap. C'est assez, quand même assez inquiétant. C'est-à-dire au bout de 9 mois, nous avons 45 000 cas de VBG. Et le nombre des cas a significativement augmenté de 86% comparativement à la même période en 2019. Et nous pouvons voir sur la carte que l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika, le Rak, le Haut-Katanga, Kasai et autres, présentent un niveau de sévérité catastrophique. Et au niveau du Nord Kivu, c'est la situation globale de janvier à septembre. Et nous sommes pratiquement à 18 000 cas de VBG seulement pour le Nord Kivu. Des cas enregistrés et recrudescence des cas dans les zones de conflit.
Plusieurs facteurs favoriseraient cette montée en flèche de chiffres, des violences basées sur les genres. Et pour les cas de viol, M. Bénédicte, de la division provinciale du genre au Nord Kivu, parle d'une certaine catégorie de personnes qui sont les potentiels acteurs de viol.
À travers cette enquête, nous avons cherché à examiner les profils des enfants exploités sexuellement. De manière brute, la grande partie des enfants exploités sexuellement sont des résidents. S'il faut parler aussi de principales causes identifiées, nous avons noté le manque de moyens de subsistance. Les conséquences sur les enfants, il y a beaucoup d'enfants maintenant qui sont contaminés par les maladies sexuellement transmissibles. Pire encore, n'ont pas accès à une prise en charge médicale de qualité. S'il faut parler des profils des auteurs, parmi les auteurs, les présumés auteurs, nous avons noté les chauffeurs, surtout pour des tronçons routiers, Goma ou Tembo, des commerçants aussi, les agents de l'État. Nous avons noté les agents des services de sécurité. Nous avons noté aussi les autres hommes en armes, notamment dans les zones où la police, les FARDC ne sont pas représentés. Nous avons noté les enseignants dans les écoles. Nous avons noté aussi les humanitaires et aussi les autres membres des communautés.
La campagne de 16 jours d'activisme s'observe chaque année et est lancée le 25 novembre avec la commémoration de la Journée internationale de l'élimination de toutes formes de violences à l'égard de la femme et de la jeune fille et se clôture par la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre de chaque année. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
Page sportive à présent avec Kofi Michel à la présentation.
Bienvenue à cette page sportive. La FIFA a dévoilé ce mercredi la liste des 11 nommés pour le prix FIFA The Best Player. Les Africains Mohamed Salah et Sadio Mané sont en lice pour remporter le titre de meilleur joueur de l'année dans le cadre des prix FIFA Best Award. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar sont présents. Seule absence notable à déplorer, Ciro Immobile, auteur d'une grande saison avec la Lazio de Rome et même soulier d'or européen. En cette année si spéciale au terme de laquelle le Ballon d'Or ne sera pas décerné, le prix FIFA The Best Player, qui récompense le meilleur joueur de l'année, fera forcément l'objet d'une attention particulière. Nicolas Pepe peut être rassuré. En dépit de son statut de remplaçant et de sa sortie très décevante face à Leeds United le week-end dernier, L'international ivoirien a toujours un avenir du côté d'Arsenal. Selon le quotidien The Times, la direction des Gunners et le staff technique ont toujours confiance en l'international ivoirien et ils croient en sa capacité à se relancer. Il n'est pas question en outre d'abdiquer dès maintenant pour un joueur payé une fortune 80 millions d'euros il y a à peine un an et demi. Pépé devrait donc au moins terminer la saison en cours avec la formation londonienne. Une marque de confiance dont il tentera de se montrer digne après son retour de suspension. L'ancien Lillois risque de rater deux matchs pour le Rouge récolté face aux Peacocks. Cette saison, en 13 matchs joués, toutes compétitions confondues, Pépé n'a trouvé le chemin des filets adverses qu'à trois reprises, dont une fois seulement en championnat. Un rendement très insuffisant et qu'il gagnerait à améliorer au plus vite. Les ténors européens ont tenu leur rang mardi lors de la première soirée de la 4e journée de Ligue des Champions. Dans le groupe E, il n'y a plus de suspense. Les deux qualifiés pour la phase à élimination directe sont connus. Ayant pris 10 points sur 12 lors de leurs 4 premières sorties, Chelsea et Séville sont assurés de se partager les deux premières places. Ils se sont imposés à l'extérieur et sur le même score 2-1. Les Blues sont allés battre Rennes grâce notamment à un but d'Olivier Giroud, tandis que les Andalous ont dominé Krasnodar. Mounir El Haddadi a signé le but victorieux juste avant la fin du match. Dans son fief du Signal Iduna Park, le Borussia Dortmund n'a fait qu'une bouchée du FC Bruges 3-0. L'équipe allemande s'en est encore remise à sa star Erling Haaland pour faire la différence. Malgré la victoire, le Borussia Dortmund reste deuxième de son groupe. La Lazio garde la tête après son succès contre le Zénith 3-1. Sauf surprise, les deux tickets pour les huitièmes de finale devraient revenir au Borussia Dortmund et la Lazio dans cette poule. En difficulté dans son championnat, le FC Barcelone se montre beaucoup plus performant sur la scène continentale. L'équipe de Ronald Koeman a assuré un quatrième succès en autant de matchs 4-0 sur le terrain du Dynamo de Kiev. La Juventus, de son côté, a battu l'équipe de Ferencváros sur le score de 2-1. Opposé à l'Istanbul Başakşehir et au Red Bull Leipzig, Manchester United et le Paris Saint-Germain, les deux favoris de cette poule H, se sont respectivement imposés sur le score de 4-1 et 1-0. Et enfin, pour terminer en athlétisme, on connaît désormais le calendrier prévisionnel de la Ligue de Diamants publié mardi par la Fédération internationale d'athlétisme. Dans une saison particulière marquée par la crise sanitaire et la programmation inhabituelle des Jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021, le circuit international paie un meeting, celui de Gateshead en Angleterre. La Ligue de Diamants devrait débuter le 23 mai avec le meeting de Rabat au Maroc et s'achever le 8 et 9 septembre pour une finale disputée sur 2 jours à Zurich. Le dernier rendez-vous avant les Jeux olympiques aura lieu à Londres le 13 juillet. La compétition reprendra ensuite le 14 août à Shanghai, en Chine. Et voilà, c'est la fin de cette page sportive. Merci de l'avoir suivi.
Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle tout simplement que la technique était assurée par Tumelo Mokwena. Et quant à moi, Pamela Kumba, je vous donne rendez-vous demain pour un autre périple des actualités en français sur Channel Africa. Au revoir.
coronavirus est très dangereux. Le COVID-19 est mortel. Le coronavirus est très dangereux. C'est une pandémie qui cause beaucoup de dégâts humains. Ça commence par la toux, puis des difficultés respiratoires. Une forte fièvre s'ensuit. Tu peux avoir des complications. Tout ton corps est fragilisé et tu peux perdre la vie. Il n'y a pas encore de traitement sûr. Il faut se préserver. Il n'y a pas encore de traitement certain. Il faut se préserver. Moi je chante cette chanson pour interpeller vos consciences, afin que vous ayez des comportements responsables. Moi je chante cette chanson pour éveiller vos consciences, afin que cette pandémie n'extermine pas l'humanité. Saluer sans se serrer les mains.
Protégeons-nous absolument.
Plus d'ambassade ni accolade.
Protégeons-nous absolument.
Faut tousser dans un mouchoir.
Protégeons-nous absolument.
Jette-le dans une poubelle bien fermée.
Protégeons-nous absolument.
Lave les mains souvent avec du savon.
Protégeons-nous absolument.
Frotte les mains avec les solutions alcoolisées.
Protégeons-nous absolument.
Tu veux faire tes courses?
Protégeons-nous absolument.
Faut nécessairement mettre le masque.
Protégeons-nous absolument.
Tu veux prendre taxi ou un bus?
Protégeons-nous absolument.
Faut nécessairement mettre le masque.
Protégeons-nous absolument.
Tu veux prendre moto, taxi?
Protégeons-nous absolument.
Faut toujours mettre le masque.
Protégeons-nous absolument.
Tu as une forte fièvre.
Protégeons-nous absolument.
Appelle le 12-12.
Protégeons-nous absolument.
Si tu as des toux sèches et répétitives.
Protégeons-nous absolument.
Appelle le 12-12.
Protégeons-nous absolument.
Si tu as des maux de tête aigus.
Protégeons-nous absolument.
Appelle le 12-12.
Protégeons-nous absolument.
Tu seras pris en charge. Pour protéger ta famille,
protégeons-nous absolument.
Et protéger tous ceux qui t'entourent.
Protégeons-nous absolument.
Le coronavirus est dangereux.
Protégeons-nous absolument.
Protégeons-nous absolument.
Protégeons-nous absolument.
Pour stopper le coronavirus.
Protégeons-nous absolument.
Saluer sans se serrer les mains.
Kosi sigeleni Afrika, manu paganisu pandolwayo, izwa imitandazo yetu. Kosi sigelela.